Et tout de suite, Rebecca, tu reçois Rima et Lula. Bonsoir, Rima et Lula.
Bonsoir.
Bonsoir à vous deux. On est ici du coup pour faire un point sur l'hébergement des exilés, notamment depuis la fermeture du camp des Gaïoles. Les exilés à Rennes sont actuellement logés en partie sur Torigné-Fouillard, à la FSU et également à l'université. C'est de ça dont on va parler ensemble. En effet, depuis le 27 octobre, des salles de classe de l'université Rennes 2 se sont transformées en logements temporaires pour deux familles d'exilés, donc 18 personnes au total. Alors du coup, Rima et Lula, vous êtes membres de ce collectif de mobilisation. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler comment la faculté en est venue à ouvrir ce bâtiment F et quel rôle aussi les étudiants ont joué dans cette ouverture?
En fait, le 25 octobre, le préfet a ordonné l'expulsion du camp des Gaïoles. Il fallait absolument trouver une solution, donc les étudiantes et étudiants se sont mobilisés. Et la fac a accepté de laisser deux salles au début sur un temps limité. Et maintenant, on est plus ou moins sur un accord de faire au fur et à mesure. Et donc voilà, on loge 18 personnes et on ne sait pas encore pour combien de temps. On essaie de trouver autre chose, mais voilà.
Et pourquoi avoir choisi d'agir à ce moment précis? C'est vraiment la date du 25 octobre qui a fait tilt un petit peu et...
En fait, on n'y avait pas d'autre solution et même si les associations sont très très présentes, elles sont fatiguées parce que ça fait des mois et des mois qu'elles cherchent des solutions. Donc c'était important aussi qu'à ce moment-là, ce soit les étudiantes et étudiants qui prennent le relais parce que voilà, les associations sont épuisées. Nous, on a une force collective qui est intéressante à mobiliser et puis on est concernés aussi par ce sujet-là du logement parce que la précarité extrême, c'est des choses qui touchent aussi les étudiantes et étudiants.
Pourquoi les étudiants ont souhaité se mobiliser? Est-ce que vous avez pu un peu discuter entre vous de vos convictions, vos désirs et vos motivations, surtout dans le fait de vous engager? Et combien vous êtes au jour d'aujourd'hui?
En fait, il faut aussi rappeler qu'on avait fait une action le samedi de la Pride. Le samedi de la Pride, il y avait deux rendez-vous. Il y avait la Pride et il y avait le rendez-vous pour le soutien aux exilés. Et donc, comme un accord, les militants se sont rencontrés. Ils se sont dit pourquoi pas faire une convergence des luttes. Ce qui nous a permis, il faut le souligner, de pour un petit temps réquisitionner une école vide qui se trouve à la gare. Faut savoir qu'elle est vide depuis plusieurs temps, que les locaux sont inutilisés et que du coup on y voyait une potentielle chance de pouvoir accueillir les personnes à la rue. Donc c'est pas que des migrants, faut pas l'oublier non plus. Et donc du coup on y est allé et la réponse a été très rapide de la préfecture qui a envoyé les CRS pour nous faire sortir sans aucune solution à côté. Donc on a pas mal discuté, il y a eu un autre rendez-vous parce qu'il faut savoir que normalement la préfecture avait promis de réquisitionner le
stade Robert Launay,
exactement, merci, et que finalement le jour où elle devait le faire, elle a annulé. Et après, ça a été un jeu de ping-pong entre la mairie et la préfecture qui se renvoyaient la balle. Sauf qu'en attendant, on avait des familles, des personnes seules qui étaient à la rue, qui n'avaient pas de possibilité de logement. À Torigné, ils sont 60 pour un espace qui doit en accueillir que 30, ce qui paraît quand même scandaleux à mon sens. Donc voilà, c'est tous ces enchaînements-là qu'on fait que devant le stade Robert Launay, on s'est dit, bah écoutez, pourquoi pas, vu qu'on est quand même pas mal d'étudiants là présents. Pourquoi pas utiliser notre structure parce que on trouve pas ça normal de laisser des enfants, des femmes et des hommes à la rue, surtout avec l'hiver qui approche, le froid qui fait que de s'aggraver. Donc voilà, on s'est décidé et c'est comme ça que ça s'est fait.
Et donc c'est suite à cette forte mobilisation d'étudiants que la faculté a donné son accord. Il y a eu un dialogue, j'imagine, entre la présidente et les membres du collectif étudiant.
Il y a eu un dialogue. À la base, ça a été fait pour les vacances. En fait, c'était donné pour une semaine. Et là, comme le comité a grossi un petit peu, on est une quinzaine environ dans le comité de mobilisation. Et après, il y a plusieurs autres personnes qui gravitent autour, qui viennent faire les permanences le midi, etc. Et en fait, comme ça grossit de plus en plus, ça permet d'avoir un rapport de négociation qui est un peu plus égalitaire et qui permet aussi à la fac de ne pas se retrouver seule face à la préfecture et à la mairie. Parce qu'il y a aussi un bras de fer qui se joue là-dessus de pression. Donc oui, on est une quinzaine sur le Comob et après il y a plein d'autres gens qui gravitent et l'objectif c'est de faire graviter de plus en plus de gens là-dedans pour qu'on puisse trouver très vite d'autres solutions parce que même si c'est mieux que dormir dehors, actuellement c'est absolument pas optimal.
Puis la faculté mentionnait à un moment donné aussi une certaine pression des salles de classe.
Oui, alors ça a été un argument qui a été beaucoup utilisé. Après, à la dernière réunion qu'on a eue avec la présidence, ça a très peu été évoqué, en fait, parce que là, on est sur une situation d'urgence, que ce soit pour les personnes adultes, mais en particulier pour les enfants. En fait, on a des bébés d'un mois. Et voilà, pression des salles ou pas pression des salles, c'est des gens qui doivent dormir à l'intérieur.
Mmh. Et c'est pas les deux salles qui créent la tension des salles. Elle était là avant, elle sera là après, même si les salles sont libérées. En plus, il faut quand même le souligner.
Oui, à l'échelle de tout un campus, voilà. De salles, c'est pas énorme. Et je me demandais quel est le lien que vous entretenez avec l'interorganisation qui est mobilisée déjà depuis longtemps, toutes les associations, Utopia 56, la Croix-Rouge.
Bah justement, on travaille avec eux, on se mobilise avec eux. Après, voilà, il y a trois sites, donc sur les trois sites, ça fait quand même... On n'est pas énorme en termes de militants, et donc ça fait qu'on s'épuise assez vite. Donc il y a du travail qui se fait, mais il ne se crée pas comme ça du jour au lendemain. Après, nous, des solutions, on en a. L'interorga, ça fait 5 mois qu'ils disent qu'il y a 8000 logements vacants à Rennes. On ne fait que de le répéter. Après, voilà, c'est à la mairie, à la préfecture de se bouger et de les ouvrir, ces logements, finalement.
Et quel lien également avec l'hébergement d'urgence, le 115 ?
Bah le 115, c'est des solutions qui sont extrêmement précaires et qui sont au jour le jour. Et donc, il y a plein de familles où on ne peut pas se permettre de les envoyer vers le 115 en sachant que, en fait, peut-être qu'ils vont partir pour une soirée et que le lendemain, ils seront de retour.
Ouais,
donc, même si ça semble être une solution envisageable, en fait, c'est plus intéressant pour eux de rester là où ils sont. Et puis, il n'y a pas de place au 115, en fait. Il y en a une de temps en temps. Et encore une fois, on ne peut pas envoyer des enfants et les faire revenir après.
Et les séparer de la famille, oui, voilà. Bien sûr. On rappelle qu'il y a 2 familles au total qui sont logées dans le bâtiment F, dont 9 enfants, on l'a dit, âgés de 1 mois à 3 10 ans.
Trois familles,
dont 9 enfants. Je me suis rendue tout à l'heure dans ces 2 salles de classe, justement, qui ont été un peu aménagées, avec notamment des affiches qui informent les visiteurs, qui retracent un peu l'historique l'évolution des logements pour les exilés depuis plusieurs mois. Et il y a également une affiche qui répertorie un peu les besoins de première nécessité, avec des appels aux dons. Alors je me demandais, est-ce que vous organisez aussi des collectes ? Comment ça s'organise tout ça ?
C'est-à-dire que pour les collectes, il y a déjà Utopia, par exemple, qui peut proposer tout ce qui est vêtements, les lits. C'est Utopia qui nous a fourni en termes de matelas, parce que je dis lits, mais c'est des matelas, même le sol. Les étudiants se sont mobilisés pour, une partie en tout cas, pour sortir les banderoles de manière à ce qu'elles servent de box et de donner un peu d'intimité à ces familles-là. Enfin, intimité dans une salle quand même, je le rappelle, mais tout de même. Et l'épicerie solidaire aussi est venue donner un coup de main, proposer de donner des denrées. Enfin voilà, il y a plein de personnes qui gravitent et qui commencent à se proposer. Mais là, l'essentiel, c'est vraiment de mobiliser pour en fait rendre visible, parce que là, pour l'instant, on est quand même toujours invisibilisé. Et du coup, là, c'est vraiment la communication qui nous manque pour mobiliser finalement.
Et on parlait tout à l'heure de permanence. Qu'est-ce que ça implique pour vous aussi en termes d'organisation, sachant que vous le disiez, vous êtes 15 actuellement, plus d'autres personnes qui gravitent un peu autour. Comment ça se met en place ? Il y a un relais peut-être ?
C'est ça, c'est un peu la possibilité de tout à chacun. Faut savoir qu'avant que la présidence lâche un peu plus de lest et dise voilà, on comprend qu'il faut du temps pour mobiliser, il y avait le risque à tout moment quelqu'un peut venir, envoyer les CRS et donc être délogé. Donc il a fallu que des gens se proposent pour dormir le soir. C'était surtout ça l'important. Donc pas mal d'étudiants, mais aussi hors étudiants, qui se sont proposés de venir dormir aux côtés des familles. Là maintenant, ça va un peu mieux, parce qu'on sait que la présidence a compris qu'il fallait mobiliser, que pour mobiliser, il faut faire de la com, et que ça met quand même du temps. Et que du coup, là, elle a lâché du lest, même elle nous soutient, même avec les vigiles, parce qu'il faut savoir aussi qu'Action française a sorti un communiqué pour prévenir qu'il y avait des familles qui étaient logées à Rennes 2. Et donc ça peut entendre un danger pour ces familles-là, et pour les militants aussi. Donc voilà, pour l'instant, c'est plus des permanences, et on invite tout le monde à venir de 10h à 19h, où là, on peut échanger, rencontrer les familles, parce que c'est important, c'est pas juste leur trouver une solution, c'est aussi faire de l'humain, parce qu'on est de l'humain avant tout. Vous parliez de migrants tout à l'heure, mais moi, je vois d'abord l'humain avant le migrant. Et donc voilà, donc là, c'est vraiment mobiliser en faisant des rencontres. Là, dernièrement, on a pu leur offrir, ce qui n'est pas grand-chose, mais un salon de coiffure, une activité coiffure dimanche dernier, parce que... J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé s'il y avait possibilité de se faire couper les cheveux. Et je connaissais des militantes de nous toutes qui font une formation coiffure. Et donc, du coup, je les ai contactées. Elles ont dit oui, elles sont venues dimanche. Et là, ça a engagé quelque chose qui fait que dimanche prochain, elles vont à Torigny-Fouillard, au Becqueron, pour aller faire la même chose avec les autres personnes là-bas. Donc voilà, c'est un petit exemple pour montrer que voilà, on peut faire preuve de solidarité à plein de niveaux, mais que c'est hyper important de le faire, parce qu'encore une fois, ça reste des humains.
Bien sûr. Et ces trois familles différentes, donc qui cohabitent dans deux salles de classe, donc comment ça se passe aussi pour elles? J'imagine que c'est peut-être un peu compliqué au début. Est-ce que les enfants arrivent à s'adapter?
Mais en termes d'intimité, c'est toujours compliqué. Après, oui, les enfants s'entendent très bien. Globalement, ils ont l'habitude d'être... Malheureusement, ils ont l'habitude d'être déplacés et d'être mis dans des conditions qui sont encore pires que celles-là. Donc, en fait, c'est vraiment loin d'être optimal, mais ça se passe bien. C'est des personnes qui s'adaptent très vite. Et puis, nous, on fait au mieux aussi pour qu'il y ait une communication qui se crée et puis pour être présent et présente avec eux et échanger. En fait, notre travail, il va plus loin que juste du militantisme. C'est aussi... réussir à créer des moments qui sont conviviaux et réussir à vraiment créer du lien. Et c'est des choses qui sont importantes, en particulier avec les enfants, en fait, pour leur créer des espaces qui sortent de cette espèce d'urgence-là et de dangers qui sont passants et qui les aident pas à se développer non plus.
Et comment est-ce que la mobilisation va continuer? Est-ce que peut-être vous prévoyez des actions à venir, une assemblée générale?
Il y a une assemblée générale jeudi midi, autour de 13h normalement. Il va y avoir des tracts, on va tracter demain. Et puis après, les permanences, généralement de midi à 14h, vous êtes sûr qu'il y a du monde. Donc si vous voulez passer, pareil, il y a des renseignements qui peuvent circuler par là. Il y a d'autres rendez-vous, je crois.
Il y a un rendez-vous mercredi, pardon, le 17, de 13h30 à 15h30 à la préfecture de Beauregard, qui a été initié par le MRAP et le collectif d'aide aux sans-papiers, contre la dématérialisation administrative pour les personnes exilées. Donc voilà, on invite tous ceux qui peuvent venir à y aller parce que c'est important. Et puis ça permet aussi de mieux se renseigner sur ce qui se passe, de ne pas juste écouter les dires de la préfecture ou de la mairie qui sont de la désinformation totale, très clairement. Et voilà, toujours dans l'esprit de créer du lien. On est étudiant, on est être humain, on est militant, on est plusieurs choses à la fois. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et voilà, en fait, tous ensemble, on va aller beaucoup plus loin que tout seul. Et la question du logement, c'est pas juste les sans-papiers, c'est pas juste les personnes à la rue, c'est aussi les étudiants. Donc c'est un combat pour tous, en fait, et même les étudiants étrangers, surtout les étudiants étrangers, en fait. Donc voilà, je trouve que c'est important et c'est rendre visible la chose, parce que là, si la préfecture et la mairie, surtout la préfecture, c'est... précipité de répondre à, justement, cette réquisition des deux salles, enfin, réquisition-négociation, d'ailleurs... des deux salles à la fac et qui a pour seule proposition l'envoi des CRS, ce n'est pas pour rien, c'est que ça l'inquiète de voir que les gens se mobilisent ensemble, les étudiants, on connaît en plus le passif de Rennes 2 en termes de militantisme, donc je pense que voilà, c'est pas pour rien, c'est pas anodin qu'elle fasse plus pression que de négociation. Et nous, il faut qu'on se batte contre ça.
La convergence, elle a une énorme force et elle a une énorme place à prendre, en fait, même en termes de juste venir rencontrer les gens et ça crée des liens qui sont très nourrissants pour nous aussi et qui nous apportent beaucoup de choses et qui, je pense, sont vraiment formateurs pour tout le monde.
Et vous avez aussi une page Facebook si...
Il y a une page Facebook et une page Instagram. La page Instagram, c'est Comob Hébergement Rennes 2. Et je n'ai pas le nom de la page Facebook.
La page Facebook, c'est Hébergement solidaire de Rennes 2.
D'accord, voilà. Bah, on invite tout le monde à aller rejoindre ces deux pages, déjà à s'informer.
Voilà, il y a toutes les informations dessus. On met nos communiqués aussi, au cas où vous n'avez pas les tracts sous la main, ils sont dessus. Il y a des photos de ce qui se passe, etc. Voilà, c'est là où vous aurez l'actualité la plus précise, au-delà de passer nous voir quand vous voulez.
D'accord. Et les permanences, donc on est sûr de trouver quelqu'un entre midi et 14h.
Voilà.
Au bâtiment F de Rennes 2. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup.